Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un phénomène lent mais dévastateur. La mort des sols prend de l'ampleur. 4 milliards d'hectares, soit un tiers des terres émergées de notre planète, sont concernés. Quand les sols ne sont plus fertiles, c'est la spirale de la faim, de la pauvreté, de l'insécurité et des migrations qui s'emballent. 3 milliards de personnes subissent aujourd'hui ce phénomène qu'ils ont souvent déclenché par méconnaissance. Mais ce n'est pas une fatalité, comme vous allez l'entendre dans cette émission. Il existe des solutions. Et cette semaine, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, il y a eu de nombreux événements pour les mettre en avant, notamment sur le continent africain.
C'est pas du vent sur RFI.
Pour comprendre l'ampleur et l'impact de la désertification, nous sommes en ligne avec Ibrahim Thiaw. Bonjour.
Bonjour, dame.
Vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord ce qu'est la désertification ?
La désertification, c'est la transformation négative des terres ou leur dégradation dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches du fait de facteurs humains ou de facteurs climatiques. Donc, les écosystèmes sont perturbés et la productivité baisse.
Voilà, mais ce ne sont pas forcément les déserts qui avancent. C'est un peu ce que l'on a tendance à penser quand on entend parler de désertification.
Ce n'est pas une vague, ce n'est pas comme un feu qui avance. C'est en fait comme un cancer qui se propage à petite dose et qui ne devient visible que quand c'est trop tard. Donc, c'est vraiment des petites taches qui s'accumulent et qui font une mosaïque. Cela peut être dans les zones proches du désert, et dans ce cas, effectivement, ça peut se rapprocher, mais ça peut se passer également dans des zones subhumides au milieu de la savane où des poches de désertification se développent.
Alors justement, quelle est l'ampleur du phénomène à l'échelle mondiale ?
Alors, on estime que plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui sont affectées par la dégradation des terres. À peu près 40% de la surface totale de la Terre, c'est quand même énorme. Et c'est d'autant plus grave que la population dans ces zones-là, elle a un fort taux de croissance. Et donc, on estime que d'ici l'an 2050, bien 4 milliards de personnes pourraient être affectées par la désertification.
Et bien sûr que les personnes affectées sont les personnes les plus pauvres, donc celles qui dépendent étroitement, justement, des ressources naturelles.
Exactement. Qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pour revenu que le capital naturel. Or, on estime que 75% des terres à travers le monde sont déjà affectées par les phénomènes de dégradation et que 23% de ces terres ne sont plus productives du tout.
Et alors, cette dégradation des terres a de nombreux impacts. On va en parler. Des impacts économiques, tout d'abord.
Alors, selon certaines estimations, les pertes liées à la dégradation des terres peuvent être estimées à plus d'un milliard de dollars par jour. C'est quand même énorme. Et sachant que les populations justement les plus vulnérables sont celles qui sont affectées par cette dégradation des terres, on a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte.
Et alors ça entraîne des conséquences du coup, d'une façon plus générale, sur la sécurité et la paix dans de nombreuses régions, et notamment sur le continent africain. Alors comment fait-on le lien entre ces phénomènes ?
Alors quand un jeune du Sahel n'a plus d'opportunité de produire sur sa terre, quand la ville le repousse ou qu'il vit essentiellement dans un bidonville où l'accès à l'eau et l'électricité sont plutôt hasardeux, il n'a d'autre choix parfois que de s'allier à des situations, de s'allier au diable, disons, faisant allusion bien sûr aux groupes terroristes qui sévissent dans la région et qui continuent de recruter pour des sommes parfois modiques des jeunes qui sont totalement désœuvrés. Ou alors ça peut entraîner des phénomènes de migration irrégulière massives qui peuvent aller vers les villes voisines, les pays voisins ou de plus en plus vers les continents voisins. C'est aussi les conflits entre usagers du milieu naturel. Donc, quand il y a une compétition pour l'accès à l'eau et à la terre On voit de plus en plus d'agriculteurs et d'éleveurs, par exemple, qui s'affrontent. On estime que dans un pays comme le Nigeria, il y a plus de conflits ou de morts liés à ces conflits liés entre agriculteurs et éleveurs que dû à Boko Haram. Donc, c'est véritablement une situation explosive. Et sachant que les ressources diminuent d'une part et que la population croît d'autre part, eh bien, on s'achemine vers des situations encore plus difficiles, si on ne prend garde.
Pourtant, restaurer des terres, c'est possible, et d'ailleurs, leur restauration coûte moins cher que leur dégradation. Alors, expliquez-nous comment on peut restaurer les terres.
Alors, il faut d'abord éviter de dégrader les terres si c'est possible, réduire et ensuite essayer de renverser la situation. Alors, c'est possible dans des zones où il y a beaucoup de soleil, parfois même beaucoup d'eau, même dans les zones arides. Il s'agit de changer les méthodes de production agricole, de trouver aussi des innovations technologiques. Vous savez, avec les énergies renouvelables, on a aujourd'hui la possibilité de combiner l'agriculture à la génération d'énergie, en quelque sorte générer de l'énergie solaire ou éolienne au profit de l'agriculture pour assurer une meilleure exode de l'eau, pour assurer une meilleure irrigation ou gestion des ressources en eau. Mais également, l'énergie permet, si vous voulez, de réduire les pertes après récolte, donc en gros d'augmenter la production. Puisqu'on sait que jusqu'à 40% de la production agricole est perdue après récolte. Tous les produits, disons, comme le lait, la viande, le poisson, les légumes, qui sont des produits périssables, sont essentiellement perdus. Donc, une combinaison entre l'agriculture et l'énergie permettrait de réduire la vulnérabilité, d'ailleurs de réduire l'aide humanitaire et bien sûr d'améliorer les moyens de valorisation de ces ressources à travers la création de chaînes de valeur, la création d'emplois pour les jeunes. Et donc, il y a une transformation possible en agissant à la fois sur les écosystèmes, mais également en réduisant les pressions qui sont la source même de la dégradation des terres.
Alors,
Donc,
quelles sont ces pressions, justement? Quelles sont les causes?
Essentiellement, c'est pour nourrir l'humanité. Vous savez que plus de 97% de notre production, de notre consommation alimentaire provient des terres. Et donc, l'agriculture constitue véritablement la première cause de dégradation des terres à travers le monde. Quand on dit agriculture, c'est à la fois bien sûr pour la production des grains et légumes, mais également pour la production pastorale, puisque le pastoralisme constitue une activité importante dans les zones arides. Donc, il s'agit de réduire cette pression dans un contexte de population qui croît et dans un contexte également de mode de production et de consommation non durable. On devient de plus en plus gourmand en ressources. On est dans un monde qui gaspille de plus en plus de ressources naturelles. Et donc, il s'agit de voir comment on peut réduire cette pression en mettant à la disposition, en particulier des petits paysans, l'innovation technologique. Donc, il s'agit, si vous voulez, de faire un saut en avant pour que la téléphonie mobile soit au service de la production agricole, pour que la technologie solaire et éolienne soit également au service de la production agricole et pour que les petits paysans puissent véritablement avoir accès à toutes ces nouvelles technologies pour qu'elles puissent valoriser davantage leurs ressources.
Oui, mais moi, si je suis petit agriculteur et que je vous entends dire tout cela, je me dis c'est très bien, mais comment j'ai accès? Il faut de l'argent, il faut avoir accès à ces technologies.
Exactement. Alors, les gouvernements doivent d'abord changer leur politique. Hein. Il y a eu, disons, depuis une centaine d'années, une politique agricole qui est plutôt extractive. Donc, il faudrait comprendre que ce business ne marche pas, en gros, pour l'humanité, même si on alimente les supermarchés, mais il y a beaucoup de gens qui sont laissés en rade, en particulier les petits producteurs. Donc, changer les politiques de développement, c'est également d'accroître les investissements en milieu rural. Les investissements sont généralement faits en ville, où les petites industries sont faites en ville, et encore une fois, on oublie qu'il y a des gens là qui produisent et qu'on ne voit même pas. On voit les produits, mais on ne voit pas les producteurs. Donc, il s'agit d'aller vers les producteurs, d'investir en eux, d'investir sur les jeunes, sur les femmes, et pour, disons, leur donner les moyens de production. Ça veut dire également décentraliser les moyens les systèmes bancaires, les systèmes financiers, pour que les petits producteurs aient accès aux crédits financiers. Aujourd'hui également, justement, du fait de la technologie et de ce qu'on appelle la mobile banking, donc tous les systèmes liés à l'utilisation de la téléphonie. Ça, c'est, si vous voulez, les Anglais appellent ça les disrupteurs, c'est des perturbateurs, si vous voulez, positifs, qui peuvent permettre de changer le système et de favoriser l'accès à la technologie aux petits producteurs.
Oui, surtout que la société civile n'attend que cela, hein, et elle se mobilise. Par exemple, cette semaine, vous êtes au Burkina Faso pour le Désertification. C'est un événement qui prouve que la société civile se mobilise contre ce phénomène, et c'est essentiel.
Absolument. Alors, ce qui est absolument essentiel, c'est que la société civile dans son ensemble, donc à la fois les organisations non gouvernementales formelles, mais également les producteurs et les consommateurs. Tant que les consommateurs n'agiront pas, tant que les consommateurs n'exigeront pas des formes de production plus durables, nous n'y arriverons pas. Donc la société civile dans son ensemble a un rôle à jouer, et je dirais même la population, vous et moi, en tant que consommateurs, en tant qu'utilisateurs des ressources, nous avons un rôle extrêmement important à jouer.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
La société civile s'est donc donné rendez-vous à Ouagadougou cette semaine pour le Désertification. 300 personnes venues du monde entier, 4 jours de travail jusqu'à samedi. Bonjour Sylvestre Thiemtoré.
Bonjour Anne-Cécile Lebrun.
Vous êtes le coordinateur du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales du Burkina Faso, qui regroupe combien d'ONG aujourd'hui ?
232 ONG à la date du 9 mai 2019.
Ah voilà, ça c'est précis. Alors c'est vous qui coordonnez le Désertification, c'est un événement important parce que la dégradation des terres, c'est une réalité que vous connaissez bien au Burkina Faso.
Oui, nous sommes affectés de plein fouet par cette dégradation des terres au niveau de notre pays. Et ceci est également une réalité dans l'Afrique subsaharienne et dans beaucoup de pays du monde entier qui sont de plus en plus affectés donc par le phénomène de la désertification.
Et comment ça se traduit au Burkina Faso ?
Ça se traduit au Burkina Faso par la sécheresse, une raréfaction des pluies, des terres qui sont devenues lessivées ou nues, impropre ou impraticable donc à l'agriculture, parfois abandonnée, des glacis. Pour vous donner une ordre d'idée, je crois que on a environ presque 240 000 hectares de terres dégradées presque chaque année sur l'ensemble du territoire burkinabé. Et quand on fait la moyenne de cette dégradation depuis 2012, on a environ un tiers du territoire qui est affecté par le phénomène de la désertification, c'est-à-dire donc de cette dégradation accélérée donc des terres au niveau de notre pays.
Et cela engendre évidemment la pauvreté, puisque les agriculteurs qui dépendent des ressources naturelles pour vivre ne peuvent plus vivre de ces terres.
Non seulement ils ne peuvent plus vivre de ces terres, et ça entraîne aussi une mobilité de la population vers d'autres zones beaucoup plus arrosées. Et cela entraîne aussi des conflits intercommunautaires pour les terres qui se raréfient, notamment les bonnes terres cultivables. Et sans compter le fait que ça va entraîner une forte pression démographique sur les terres cultivables, en ce sens que beaucoup de populations se retrouvent sur les quelques rares terres qui sont praticables, ce qui ne facilite pas donc la cohabitation intracommunautaire.
Et quelles sont les causes de la dégradation des terres au Burkina?
Nous pensons que, au-delà du fait que les changements climatiques ont un effet accélérateur, la principale cause elle est anthropique, en ce sens que nous avons une surexploitation des terres, des mauvaises pratiques parfois agricoles, et qui sont donc autant de facteurs causaux donc de cette dégradation des terres. À cela, on peut ajouter aussi la coupe abusive du bois et des activités de l'homme qui tendent à déforester donc les quelques arbres qu'on a parfois sur certaines superficies qui participaient donc à la conservation des eaux et des sols.
Et la bonne nouvelle, comme nous l'expliquait auparavant Ibrahim Thiaw, c'est que l'on peut restaurer les terres au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. Et ça va faire l'objet d'une des discussions aux désertifactions, puisque comme son nom l'indique, le but c'est de discuter entre les différents intervenants pour trouver des solutions pour enrayer cette dégradation.
Heureusement, des solutions existent et de notre point de vue, il est très urgent d'agir sur cet aspect de la récupération des terres dégradées parce que c'est une question de sécurité alimentaire au niveau des populations parce que si rien n'est fait pour récupérer ces terres dégradées, nous allons avoir, comme ça a été expliqué plus tôt, les conséquences liées à la mobilité, à la migration des hommes et des femmes. Nous allons avoir une forte exposition donc à la question donc de l'insécurité alimentaire. Autant de facteurs donc qui peuvent donc aggraver donc la vie des communautés au quotidien. Alors que nous savons que des solutions existent. Au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de paquets technologiques qui permettent de restaurer et de récupérer des terres dégradées. Lorsque les communautés sont mobilisées, sont formées à cela, c'est possible. Nous avons des cas d'école à travers des techniques comme le zaï manuel ou mécanisé. Nous avons donc les demi-lunes qui sont autant de pratiques. Quand les moyens le permettent avec la mécanisation, on peut récupérer des terres dégradées qui redonnent vie à la végétation, qui redonne vie à la faune et qui permet aux populations donc de rétablir leurs moyens de subsistance et d'accroître donc leur résilience par rapport donc au choc de la sécheresse.
Ce désertification va durer 4 jours, 4 axes thématiques, l'initiative de la Grande Muraille Verte, le pastoralisme, le foncier et les multi-usages de l'eau. Qu'en attendez-vous?
Alors, nous devons dire que désertification est avant tout une opportunité pour la société civile d'échanger avec d'autres acteurs sur ces différentes thématiques afin donc de co-construire sa position et ses contributions par rapport à ces sujets d'ampleur importante, mais aussi de pouvoir sortir donc de cet atelier des recommandations fortes qui peuvent donc non seulement servir aux décideurs nationaux des différents pays représentés, mais également de pouvoir donc construire des positions qui permettent à la société civile d'apporter sa contribution à la prochaine conférence des parties, et notamment donc la COP des actifs action qui aura lieu donc en Inde.
Qui aura lieu en Inde début septembre. Et alors vous parliez justement du pouvoir politique, il y aura des autorités burkinabées qui seront présentes lors de ce désertification, mais d'un point de vue plus global, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau du Burkina et des autres pays, cette lutte contre la dégradation des terres est prise en compte? Est-ce que c'est un enjeu important?
Alors, nous disons que de par la présence des autorités à cette cérémonie d'ouverture, nous avons au niveau du pays d'accueil, le Burkina Faso, 4 ministres du secteur rural qui seront présents, notamment le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales, le ministre de l'Eau. Et c'est tout le secteur rural qui est mobilisé avec l'accompagnement donc du chef du gouvernement, notamment le premier ministre en chef. Et nous avons également la présence du secrétaire exécutif donc du mécanisme des Nations Unies pour la lutte contre la désertification qui est aussi représenté. pour montrer déjà un engagement politique fort au sein donc des autorités locales et internationales. Mais au Burkina Faso, à travers déjà les politiques publiques, on peut dire qu'il y a une volonté politique forte d'aller vers la lutte contre la désertification, même si nous sommes parfois en deçà de nos attentes en termes de ressources allouées à cette lutte contre la désertification. C'est possible de faire bouger les lignes, parce que déjà au niveau de la société civile, nous savons que les populations sont engagées et ne demandent qu'à être accompagnées pour appliquer donc les paquets technologiques qui existent. Ce sommet devrait donc permettre aux autorités de toucher du doigt cette réalité et de cesser de rester dans les discours pour aller donc à l'action concrète sur le terrain.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Sylvestre Thiem-Touré.
Merci, Anne-Cécile Lebrun.
C'est pas du vent sur RFI, et si vous voulez savoir où va le monde, vous êtes branché sur les bonnes ondes. Avec la plus forte croissance démographique du monde, le continent africain devrait voir sa population doubler et passer de 1,3 milliard à 2,5 milliards d'habitants en 2050. Rien qu'en Afrique subsaharienne, 62% de la population a moins de 25 ans. Il va donc falloir créer des emplois et l'entrepreneuriat vert est un secteur prometteur. C'est la conviction des fondateurs de l'ICAF. Les initiatives Climat Afrique francophone soutiennent des jeunes qui se lancent. En parallèle de la Journée internationale contre la désertification, une quarantaine d'entre eux se sont réunis au Maroc, à Mohammedia, à 25 km de Casablanca, dans le cadre du forum Jeunesse et Entrepreneuriat Vert. Théa Olivier les a rencontrés.
Dans la ville côtière de Mohammedia en bord de mer, une quarantaine de jeunes entrepreneurs de 13 pays africains se sont retrouvés dans une salle de conférence remplie. Toute la matinée, ils ont écouté avec attention les différents intervenants institutionnels qui ont déroulé les opportunités de financement et leur vision de l'entrepreneuriat vert en Afrique. Dans l'après-midi, c'était à leur tour de présenter leurs projets et les défis qu'ils rencontrent sur le terrain. Ce forum jeunesse et entrepreneuriat vert a été organisé par Myriam Ouzir, coordinatrice de l'association Initiative Climat Afrique Francophone, l'ICAF. Cette ingénieure marocaine est consultante, engagée dans le développement durable, écoutons-la. Le
programme Initiative Climat est né d'un constat très simple, c'est qu'on était dans le cadre de la COP21, et parallèlement à ces processus de négociation, on constate que les acteurs de la société civile, les acteurs non étatiques, n'attendent pas les résultats des négociations. Ils sont d'abord victimes, et les premiers vulnérables aux effets liés au changement climatique, mais ils sont aussi acteurs qui apportent des solutions, des réponses à travers des initiatives positives, des actions de lutte contre le changement climatique. Et de par ces actions-là, pour nous, ils constituent des parties prenantes qui pourraient accompagner les délégations officielles.
Pourquoi organiser un forum comme cette semaine ?
Donc le forum Jeunesse et Entrepreneuriat Vert au Maroc est une deuxième édition. La première édition du forum a eu lieu l'année dernière. Les acteurs clés sont les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile, que ce soit les associations et les coopératives. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'il y a un rôle très important que les jeunes pourraient jouer à travers l'entrepreneuriat vert pour contribuer aux conventions globales, aux engagements des États, que ce soit la convention sur la lutte contre le changement climatique, la convention de lutte contre la désertification, mais aussi la convention de la biodiversité. De là est né ce forum qui a pour objectif de réunir d'une part les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent débattre, discuter des contraintes qu'ils rencontrent dans leurs pays respectifs, mais aussi des opportunités, des perspectives de développement de l'entrepreneuriat vert en Afrique. On a eu la chance d'avoir des intervenants comme des représentants de la BAD, de la Banque africaine de développement. Et donc ce qui ressort des banques, c'est que pour qu'un projet puisse avoir de là une chance d'être financé, il faut qu'ils expliquent dans quelle mesure ils contribuent à travers leur projet entrepreneurial à des engagements de lutte contre le changement climatique de manière générale et aux objectifs du développement durable de manière encore plus élargie.
Pourquoi ce terme alors d'énergie verte ? Est-ce que c'est un secteur particulièrement porteur et avec beaucoup d'impact ?
Donc il y a d'abord les énergies solaires, tout ce qui est agroécologie. Mais on a constaté que la thématique de la valorisation des déchets, valorisation énergétique des déchets est également très importante. Donc on a vraiment repéré un potentiel de création de valeur, de richesse qui pourrait être constituée une opportunité pour les jeunes pour qu'ils puissent créer leur business autour de ces thématiques-là. La problématique énergétique est double, en fait. Il y a la précarité, comment répondre à la précarité énergétique pour que les populations, notamment locales, rurales, puissent avoir accès à une énergie de qualité et accessible, abordable. Et puis, il y a des réponses à travers notamment la valorisation des déchets qui contribuent indirectement ou directement à la préservation des ressources, notamment tout ce qui est bois, énergie, à travers le charbon vert. Donc c'est une thématique qui est ressortie vraiment et sur laquelle on a fait un focus cette année au forum. C'est le charbon vert comme étant une solution énergétique et une solution de lutte contre la désertification et de la protection de la biodiversité en Afrique.
Et le charbon bio est à l'honneur cette année. Le début du forum a été marqué par le lancement d'un cluster de producteurs de charbon vert, soit un réseau de petites entreprises ancrées localement qui produisent toutes ce même charbon, plus respectueux de l'environnement que le charbon de bois. À l'initiative du projet, Benoît Théo, réalisateur et consultant spécialisé sur le développement durable, il a cofondé l'ICAF avec Myriam Ouzir.
Il y avait des activités conduites par des jeunes entrepreneurs et des associations qui produisent du charbon vert. Alors charbon vert, généralement le charbon il est noir, pourquoi on l'appelle vert ? Parce qu'il est fabriqué à base de résidus agricoles ou de déchets ménagers. Et donc le charbon vert remplace le charbon de bois et donc permet effectivement d'économiser la ressource en bois et donc l'abattage finalement des arbres. Et ces projets de production de charbon vert nous semblaient extrêmement intéressants, justement, ces biocombustibles permettent d'émettre moins de gaz à effet de serre et puis aussi d'avoir une énergie renouvelable disponible localement. Pendant 3 ans, nous avons organisé un certain nombre d'ateliers, de rencontres et au fur et à mesure que nous avons avancé dans ce projet, à un moment donné, on s'est dit mais il va peut-être falloir aussi un petit peu structurer cette filière et c'est pour ça que nous avons créé le cluster africain charbon vert.
Concrètement, en quoi il va servir et combien il y a de personnes à l'intérieur de ce cluster pour l'instant ?
Alors actuellement, il y a à peu près une quinzaine de producteurs d'une dizaine de pays d'Afrique francophone qui tournent autour évidemment du cluster. qui va d'une part organiser des rencontres internationales, mais aussi des formations nationales et internationales, qui va éditer un guide de production du charbon vert qui n'existe pas à ce jour en français, réaliser justement un annuaire aussi des productions, des producteurs, ce qui va permettre effectivement à des nouveaux producteurs de prendre des contacts dans leurs pays respectifs, faire aussi un travail de veille pour voir qui fait quoi en termes d'élaboration d'équipements, des procédés de commercialisation innovants, etc. Et évidemment, mettre en place un service qui va appuyer les jeunes qui veulent lancer effectivement cette activité. La production de charbon vert semble a priori facile, mais en fait elle est extrêmement complexe. Et si on veut réussir dans cette filière, il faut se faire accompagner de jeunes qui ont déjà effectivement l'expérience.
Et est-ce que les ateliers qui ont été organisés à Agadir, etc., est-ce que c'était dans le cadre de ce cluster, en tout cas ou en amont ?
Exactement. Nous avons organisé deux ateliers recherche et développement pour élaborer des équipements que nous ne trouvons pas actuellement sur le marché. D'une part, une presse de compactage du charbon vert et d'autre part, des carbonisateurs. Il y a tout un travail de communication et d'éducation à faire autour du charbon vert qui n'est pas connu. Et actuellement, nous travaillons sur un projet d'édition d'un livre pour enfants sur le charbon vert. Et donc, si on sensibilise les jeunes, si on fait connaître le charbon vert auprès des enfants, fatalement, les parents seront aussi touchés.
Pourquoi le charbon vert, ça marche en Afrique ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les consommateurs et pourquoi est-ce que ça pourrait vraiment être une alternative qui convienne à un marché ?
Pour les consommateurs, il y a principalement deux intérêts. Le premier, c'est que le charbon vert émet peu de gaz nocifs. Et le deuxième avantage, c'est le prix. C'est-à-dire que le charbon vert est généralement vendu moins cher que le charbon de bois. Mais d'une façon générale, on a quand même une baisse des prix de l'ordre de 20% par rapport au charbon de bois, dont le prix va continuer à augmenter compte tenu de la rareté de la ressource. En plus, ça permet aussi de valoriser une ressource qui aujourd'hui ne l'est pas, que ce soit des résidus effectivement agricoles ou que ce soit effectivement des déchets ménagers. Par exemple, au Cameroun, ils collectent l'ensemble de leurs matières premières sur les marchés et donc ça permet d'assainir la ville.
Papa Samba Ngom est sénégalais et il fait partie du cluster Charbon Vert. Avec sa start-up NoFly Solaire, il travaille depuis un an sur la technique de production de charbon vert à partir de coques d'arachide. Il dit ressortir plus fort de l'atelier de recherche et développement du mois de juin à Agadir avec ses confrères africains.
Concrètement, au début de mes recherches, j'avais beaucoup de contraintes telles que la carbonisation, ça pose beaucoup de problèmes. Si vous n'avez pas bien carbonisé la matière première, c'est sûr que tu n'auras pas de bonne qualité de charbon. Et l'autre contrainte aussi, c'est l'équipement. Dans mon cas aussi, j'ai fabriqué mon propre machine localement qui produit à peine 100 kg de charbon vert, mais il n'y avait pas de charbon de qualité. Et lorsque j'ai eu une formation avec l'initiative Climat, vraiment, je dis, toutes les contraintes sont élevées. Vraiment, parce qu'il nous a donné des techniques et des aptitudes pour réussir le charbon vert en Afrique. Et on a fait une semaine de formation intense. Et vraiment, cette formation, ça m'a beaucoup aidé au retour au pays. Maintenant, je ne suis plus à l'état de recherche et de développement. Je suis en train à la recherche de financement, vraiment pour concrétiser ce projet.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Lors de cette même formation, d'autres entrepreneurs étaient plus avancés, comme Fulgence Ndri de Côte d'Ivoire. Lui fait de la collecte d'ordures ménagères et produit du charbon vert à partir de résidus organiques depuis 2016. Directeur général de son entreprise Tisner, il est à la tête d'une équipe de 10 personnes.
L'objectif, c'est de voir le charbon vert qui va constituer pour la Côte d'Ivoire et pour les autres pays d'Afrique, un produit alternatif au charbon de bois qui aujourd'hui joue sur notre environnement. Nous avons une production de 10 tonnes mensuelles et nous entendons accroître cette production parce que ces 10 tonnes-là, c'est la consommation que pour 800 ménages que nous tenons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de plus de 30 millions d'habitants et l'objectif, c'est de pouvoir voir notre production multipliée par 3, par 5 et puis voir aussi cette activité être vulgarisée, surtout même au niveau de la Côte d'Ivoire, afin que nos populations puissent se tourner vers cette alternative qui, je pense, pourra apporter beaucoup pour notre environnement.
Et est-ce qu'elle est rentable, l'entreprise, aujourd'hui ?
Oui, dans le sens de la rentabilité. Déjà, on a des fruits parce qu'on arrive à déjà assumer nos différentes charges, c'est-à-dire le charge du personnel et les charges même des différents intrants qui sont utilisés dans l'activité. Il faut dire que c'est une activité qui est principalement menée sous fonds propres dans un premier temps parce que ce sens qu'on n'a pas encore de subvention ni d'appui de la part des institutions étatiques ni de institutions. Je pense que si on a des subventions ou de l'appui, ça serait déjà un grand pas parce qu'on pourra porter cette activité-là à un autre niveau que là où il est aujourd'hui.
Quelles sont les difficultés qui font qu'une entreprise de charbon vert ne va pas marcher ?
Les problématiques qui ressortent, c'est des problématiques d'ordre technique. On a le problème des fours de carbonisation qui jusque-là n'était pas maîtrisé. Et qui parle de fours de carbonisation, si vous n'avez pas un four de carbonisation qui est assez performant, vous ne pouvez pas produire de la matière suffisante pour la production de ce charbon bio. Et il y a aussi le problème de la presse. Il serait beaucoup plus intéressant de passer à des presses beaucoup plus industrialisées pour aussi accroître la production. Et donc, ce cluster est important pour nous parce que ça nous permet de faire le partage de nos différentes expériences dans nos différents pays. De plus en plus, on commence à avoir des intéressés parce qu'on a eu de nouveaux adhérents qui sont aujourd'hui parmi nous. Et il faut dire que c'est l'objectif que nous recherchons, de pouvoir susciter quelque chose et créer beaucoup plus d'engouement au niveau de cette filière-là.
Et qu'est-ce que vous retenez justement de ces quelques jours passés à Agadir avec les personnes du cluster qui partagent la même passion et le même travail que vous ?
Nous avons encore échangé sur certains points et nos difficultés du moment. Parce qu'il faut dire que nos difficultés ne sont pas encore totalement éradiquées jusqu'à maintenant. Parce que quand vous produisez, vous avez un produit comme le charbon vert, il y a à la fin la commercialisation. C'est un nouveau produit, certaines populations ne sont pas encore habituées à ce nouveau produit. Et donc nous avons discuté sur les stratégies de communication autour du produit, comment faire connaître ce produit-là à nos populations et puis pour qu'elles puissent l'adopter comme le produit qui va contribuer à sauver notre environnement.
Cette alternative répond à la désertification de votre pays ?
Oui, il faut dire dans les années 1960, la Côte d'Ivoire est un pays qui comptait près de 16 millions d'hectares de forêts. Aujourd'hui, 50 ans après, quand vous regardez en arrière, les chiffres sont alarmants parce que nous nous retrouvons à 2,5 millions d'hectares de forêt. Qu'est-ce que dans 40 ans, les générations à venir vont pouvoir trouver ? Surtout qu'on parle aujourd'hui de l'avancée du désert. Nous avons suffisamment de déchets et nous avons suffisamment d'industries qui produisent beaucoup de déchets et qui peuvent permettre de produire le charbon vert qui est une énergie fiable. Si aujourd'hui vous avez des centaines de producteurs du charbon bio qui initialement étaient des producteurs de charbon de bois qui se tournent vers l'activité de production du charbon bio, je pense que ce serait de contribuer à freiner cette avancée de désertification qui, pour moi, est une réalité.
Elle est l'une des seules femmes entrepreneurs à participer au forum. Fatim Zahra Beraïch s'est penchée sur la valorisation des déchets. La jeune Marocaine a lancé en 2016 sa start-up Biodome qui travaille sur le compostage mais surtout sur les installations de biogaz chez les agriculteurs. Explication par l'ingénieur spécialisé dans l'étude de la gestion des déchets.
On a plusieurs produits, des installations de biogaz construites chez les agriculteurs. Elle est sous forme d'une... si vous voulez, une fosse septique étanche, je préfère l'appeler comme ça, pour donner l'idée que c'est une installation qui est enterrée, qui n'est pas du tout encombrante pour les fermes. Elle permet de recevoir, elle reçoit chaque jour les déchets organiques de la ferme, les eaux usées aussi. Et elle permet de produire du biogaz en quotidien. L'autre produit, c'est des composteurs, c'est des machines électromécaniques qui permettent d'accélérer le processus de compostage. Et ça permet essentiellement de réduire le taux des déchets dans nos poubelles en général, puisque nous avons plusieurs dimensions, plusieurs tailles de composteurs qui peuvent répondre aux particuliers, aux petites familles, jusqu'aux hôtels et grands établissements.
Et donc après, avec la production de biogaz, qu'est-ce que vous en faites ?
Oui, pour le biogaz, il est utilisé généralement par les agriculteurs d'abord pour la cuisson, pour cuisiner, pour chauffer les habitats en hiver, pour chauffer les écuries, et puis pour pomper de l'eau. Ça permet d'activer des moteurs qui servent à pomper de l'eau, parce que actuellement, généralement, la majorité des agriculteurs, ils ont un système traditionnel qui sert à pomper l'eau avec des bouteilles de gaz. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que on a remplacé ces bouteilles de gaz par cette installation de biogaz. Donc ça permet de produire en continu le biogaz qui peut alimenter leurs moteurs et pomper de l'eau sans avoir besoin à faire des recours en bouteilles ou d'autres sources comme l'électricité ou autre.
Et vous en êtes où dans le développement de votre entreprise ?
Nous sommes en pleine activité, en pleine commercialisation, donc on présente nos produits maintenant. Et nous travaillons toujours sur la recherche et développement parce que c'est des produits 100% locaux. Donc on essaye de développer plus notre technologie et nos solutions.
Quels sont un peu les obstacles que vous avez rencontrés pour développer ce projet ?
Les obstacles, je peux dire d'abord financiers, parce que on a développé plusieurs prototypes. On a un produit fini, mais maintenant c'est l'étape de passer de la production en chaîne. Il nous faut vraiment un fonds qui n'est pas léger pour vraiment structurer de bonne et due forme notre entreprise, notre projet, pour qu'on puisse lancer le produit comme il faut dans le marché.
Et alors le marché, il est réceptif quand même ?
Oui, il y a une grande demande, sauf que je me vois petite par rapport à l'énorme besoin qu'il existe dans le marché, dans le monde rural. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce que c'est la technologie de biogaz, alors que c'est une solution qui n'est pas du tout chère, qui est accessible, qui est pratique, qui est très facile d'usage. Et je crois que c'est la solution la plus harmonique qui peut entrer très facilement et s'intégrer dans le quotidien d'un agriculteur. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Oui, pour faire connaître la technologie de biogaz et de compostage. C'est des solutions qui peuvent résoudre pas mal de problèmes dont on souffre maintenant dans la gestion des déchets et pas mal d'autres problèmes.
Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, 72% des jeunes Africains sont attirés par l'entrepreneuriat, mais environ 24% de ces jeunes déclarent que la peur de l'échec est un obstacle à la création d'entreprises. Pour accompagner tous ces entrepreneurs verts innovateurs, Biao Afo a décidé de créer une plateforme au Togo. Le but, sensibiliser et former les jeunes à l'entrepreneuriat durable et les accompagner face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
Nous sommes dit d'abord à travers des forums de faire de la sensibilisation et montrer aux gens, sur la base de défis, comment eux peuvent en faire une entreprise par exemple.
Au-delà de la formation, vous voulez aller vers de l'accompagnement. Quelle est la différence de stratégie là-dessus ?
Ce que nous avons constaté, c'est que les formations, c'est bien, mais ça ne permet pas forcément d'obtenir des résultats probants. Et c'est pour ça que nous avons proposé d'accompagner un certain nombre de jeunes entrepreneurs. En fait, nous, on veut proposer ce laboratoire où, par exemple, le producteur de charbon vert peut faire ses tests et avoir un espace de travail où lequel il va travailler. Parce que cette question est assez récurrente auprès de ces jeunes entrepreneurs où ils n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir développer leurs produits. Et ensuite, lorsqu'ils vont pouvoir avoir un produit plus ou moins fini, la question du financement, parce que nous ne voulons pas aller directement à la question du financement. Parce que si vous n'avez pas un produit qui est testé et reconnu par le marché, le financement ne va pas forcément vous aider. Donc maintenant, nous voulons aussi servir en fait d'interface entre des potentiels investisseurs et ces jeunes pour les accompagner, en fait, pour minimiser les risques, pour que l'investisseur soit plus rassuré qu'il y a derrière un travail qui a été déjà fait.
Sur quels axes, surtout, vous coachez ces jeunes
Principalement, ce sur quoi cet accompagnement va se passer, c'est dans la gestion de l'entreprise. C'est qu'on peut avoir une idée assez innovante, géniale, mais en faire une entreprise, c'est tout autre chose. Arriver à un certain moment, il faut recruter des gens. Il faut avoir ses compétences managériales. Et maintenant aussi, il faut vendre le produit. Il y a cette question de marketing. Et comment faire l'approche client, comment fidéliser un certain nombre de clients, c'est parfois, et sur la base de ce que nous avons constaté, des compétences que certains jeunes entrepreneurs n'ont pas.
Quelles sont les problématiques principales auxquelles se confrontent les jeunes entrepreneurs?
Le principal problème, c'est la question cuisante du financement. Aller vers les banques avec un projet d'entrepreneuriat vert, ils n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de projet, ils ne le connaissent pas forcément. Et aussi, c'est un travail que nous sommes en train de faire, vous proposez ce genre de formation à ces financiers-là pour les informer un peu plus sur le secteur, pour qu'ils sachent comprendre un peu ce type de financement. C'est pour ça que pour l'accompagnement financier, nous penchons plus vers peut-être des fonds ou des organismes qui interviennent déjà dans le domaine.
Mais le financement, est-ce qu'il est encore compliqué aussi à avoir, même une fois qu'on a ce produit qui est déjà proposé ou validé?
Pour avoir discuté avec des spécialistes de la question d'investissement, le marché est assez limité. Donc pour financer un projet, ils se disent, est-ce que en mettant du financement, est-ce que le marché est assez large? Mais si la personne arrive à prouver que son produit peut marcher à la fois au Togo, au Bénin, au Sénégal et même au Maroc, je pense que en montrant vraiment des preuves que cela, si possible des marchés obtenus ou des accords possibles, l'accès au financement devient plus facile. Vous avez un produit qui est intéressant, qui a commencé à faire ses preuves à petite échelle. Mais maintenant, est-ce que votre produit, est-ce que votre entreprise est capable de passer à une échelle plus grande? C'est souvent le point épineux pour avoir accès au financement. Et c'est là la question du marketing aussi qui se pose. C'est que lorsque vous arrivez à fidéliser un certain nombre de clients, comment vous arrivez à intéresser d'autres marchés en fait? C'est là où, si vous arrivez à avoir ce genre de compétences, où vous avez cet accompagnement, vous pourrez en fait être à même de proposer votre produit ou votre service dans un marché plus large.
Pour vous, c'est là que le digital peut être important ou pas?
Justement, nous sommes à une ère où c'est difficile maintenant d'entreprendre sans le digital parce que la communication s'est dématérialisée. Et aujourd'hui, j'encourage les jeunes en fait à se lancer, pas juste à se lancer parce qu'on n'a pas trouvé du travail, parce que l'entrepreneuriat en général, c'est assez engageant. Mais lorsque vous trouvez un secteur dans lequel vous trouvez votre passion, parce que c'est la passion qui permet de franchir les obstacles. Et donc, je veux encourager tous ceux qui sont déjà dans le secteur à avancer et que maintenant, avec de l'abnégation et en travaillant ensemble, chacun dans son domaine ou dans des domaines qui sont un peu similaires, nous pouvons avancer, nous pouvons réussir ce défi de réduire un peu les dégâts environnementaux.
Si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat vert, sachez que l'ICAF organise une formation professionnelle en agroécologie en septembre-octobre. N'hésitez pas à les contacter sur leur site www.initiativeclimat.org. Vous pouvez aussi en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, hashtag CPDV tout simplement. Merci à Théa Olivier pour son reportage, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.